Voici Red Bull Bora Hansgrohe, le podcast d'OVB Online sur le Tour de France. Et pendant 3 semaines, nous accompagnons le manager de l'équipe, Ralf Tänk, au cœur de la plus grande et la plus titrée des équipes cyclistes allemandes sur la Grande Boucle. Vous avez des questions pour Ralf Tänk? Envoyez-les à tobias.ruf@ovbmedia.de. Et maintenant, profitez bien de ce nouvel.
Richard Carapaz remporte la 20e étape du Tour de France après un final dramatique. Remco Evenepoel sécurise la 2e place du classement général et termine également 2e à l'Alpe d'Huez. Red Bull Bora Hansgrohe marque cette étape de son empreinte et nous en parlons comme toujours avec le manager de l'équipe. Salut à Ralf Tänk en France.
Salut et salutations à Rosenheim.
Alors, le bilan est excellent. La 2e place au classement général est assurée. Remco finit 2e à l'Alpe d'Huez. Y a-t-il une pointe de regret? Il était très déçu à l'arrivée car la victoire d'étape était à sa portée. Quel est ton avis?
Oui, nous sommes super contents de cette étape. Toute l'équipe a fait un excellent travail. Nous étions représentés par Jai Hindley dans le groupe de tête. Nous avons eu longtemps Maxime Van Gils et aussi Mattia Cattaneo avec Remco dans le Galibier et ensuite encore dans la descente après le Galibier. Alors, l'équipe a vraiment roulé de manière très, très soudée. On peut évidemment discuter longtemps. Aurait-on pu ramener Jai plus tôt pour qu'il prenne le rythme, pour qu'on rattrape le groupe de tête plus vite, car Carapaz a gagné aujourd'hui depuis le groupe de tête. Remco aurait-il dû attaquer plus tôt personnellement? Oui, on peut tout discuter, mais notre objectif premier était de sécuriser la 2e place au classement général. On aurait pu prendre plus de risques pour cette victoire d'étape, ce qu'on aurait probablement fait si on n'en avait pas déjà 2 en poche. C'est toujours agréable de gagner une étape sur le Tour de France, mais au final, en gagner 2 ou 3, on peut en discuter, mais il aurait fallu prendre beaucoup plus de risques, soit pour que Remco soit en difficulté, soit pour tout donner dans la descente. Et la dangerosité de la descente s'est vue avec les mésaventures de Sepkus.
Exactement. Nous en parlerons justement dans un instant. Le bilan est donc très positif. Restons un instant sur Remco. C'est ce à quoi je pensais. Je dois avouer que je suis surpris par sa performance en haute montagne. Est-ce le plus fort Remco Evenepoel de sa carrière jusqu'ici?
Je dirais que oui, car il avait déjà terminé 3e ici sur le Tour de France il y a 2 ans. Mais ces 2 dernières années, le niveau global du cyclisme professionnel a encore augmenté. Cela signifie qu'avec sa performance d'il y a 2 ans, Remco ne serait ni 2e ni 3e aujourd'hui. C'est pourquoi on peut dire que c'est le Remco le plus fort en haute montagne que nous ayons jamais vu. Il n'a pas perdu ses qualités de rouleur puisqu'il a aussi gagné le contre-la-montre ici. Dans l'ensemble, je ne peux que féliciter mon équipe de performance qui a su tirer le meilleur de Remco actuellement.
Je suis tout à fait d'accord. L'étape de montagne la plus difficile de l'histoire du Tour, c'est ce qu'a dit le directeur du Tour, Christian Prudhomme. Quelle tension retombe après une telle journée? Je suis certain que vous avez énormément parlé de ce 25 juillet ces dernières semaines. Ai-je raison de le penser? Quelle pression retombe, Ralf?
Oui, la pression ne retombe pas encore vraiment car nous avons une vraie course demain à Paris. Ce n'est qu'après que le Tour de France sera terminé. Je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire que c'était l'étape de montagne la plus difficile de l'histoire du Tour de France. Il y avait 5000 mètres de dénivelé, mais ce n'était aussi, entre guillemets, que 170 ou 180 kilomètres. Je regrette un peu le cyclisme à l'ancienne, comme on dit, avec des étapes de montagne de plus de 220 ou 230 kilomètres. Mais peu importe, c'était très dur, il faisait chaud et notre équipe était au plus haut niveau. Et au final, c'est ce qui compte.
Exactement. Parlons tout de suite de l'équipe et du niveau. J'ai aussi une question à ce sujet. D'abord, sur la stratégie, Jai Hindley était resté très, très longtemps aux avant-postes. Était-ce la priorité ou y avait-il aussi l'idée de placer Jai devant pour qu'il puisse viser la victoire d'étape? Ou l'idée était-elle surtout de le positionner comme relais pour Remco Evenepoel?
Tout d'abord, un grand compliment à Jai pour avoir réussi à intégrer le groupe de tête. Aujourd'hui, ce n'était pas vraiment une partie de plaisir, car ce groupe s'est formé dans l'ascension du col de la Croix de Fer. Et là, tout dépendait de votre niveau. Et Jai était vraiment très fort et a pu suivre. Ensuite, il y avait deux points qui restaient en suspens pour nous. Jai est-il assez fort pour remporter l'étape? Il ne l'était pas aujourd'hui. Carapaz et Sepp Kuss étaient meilleurs dans l'ascension finale, mais il a été très, très important comme relais. Et nous avons ensuite rappelé Jai Hindley. Quand nous avons vu qu'il ne pouvait pas gagner l'étape, nous l'avons fait revenir. Il a ensuite mené le train pour Remco dans le groupe Remco Pogacar et il a presque réussi à permettre à Remco de revenir à l'avant.
Jai Hindley, un solide Maxim Van Gils, Remco Evenepoel. Au début du tour, je trouve qu'on n'avait pas encore vu les deux premiers aussi forts. On peut donc visiblement monter en puissance pendant un Tour de France. Explique-nous ce phénomène, s'il te plaît.
Oui, alors que des gens s'améliorent pendant un Tour national de 3 semaines, il faut avoir un talent immense. Je pense que 99% de la population mondiale a plutôt tendance à faiblir en faisant 3 semaines de courses cyclistes d'affilée. Mais ce sont justement ces exemples qui expliquent pourquoi ces gars sont devenus cyclistes professionnels, parce qu'ils ont ce talent pour, disons-le dans notre jargon, se mettre en jambes. Et si l'on prend le cas de Maxime, il a énormément souffert de la chaleur la première semaine. Il n'est pas fan des températures au-dessus de 30 degrés. Il a plutôt du mal à y atteindre des performances de haut niveau. Et Jai Hindley n'a peut-être pas autant intensifié son entraînement entre le Giro d'Italia et le Tour de France, car il devait aussi se remettre du Giro d'Italia. Et c'est pourquoi il est devenu plus fort lors de la dernière semaine. Mais c'était aussi une part de stratégie de notre part, car nous savions que ce week-end final allait définitivement décider du podium ici sur le Tour de France. Et c'est pourquoi nous avions besoin de chaque homme à son meilleur niveau. Et je pense que notre équipe de performance a très bien réussi.
Parlons brièvement du vainqueur du jour. C'est aussi quelqu'un qui semble devenir de plus en plus fort. Richard Carapaz remporte sa deuxième étape sur ce tour et s'empare du maillot à pois. Et puis, il y a cette histoire avec Sepp Kuss. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. C'était vraiment le meilleur grimpeur aujourd'hui. Il semblait même plus fort que Carapaz. Enfin, il chute deux fois en quelques minutes. Est-ce qu'on... Non, on compatit avec les collègues de la Visma?
Oui, tout à fait, car premièrement, Sepp Kuss est un grand coureur, un personnage formidable. Et oui, la deuxième chute était vraiment très dangereuse, n'est-ce pas? Il a failli finir dans les barrières de sécurité et ils auraient pu tous les deux tomber dans le ravin. On est donc soulagé qu'il soit resté en haut. Mais comme je disais, on a parlé de la petite descente avant l'arrivée et de sa dangerosité. Et nous, c'est de toute l'équipe ici. Eux avons aussi suivi l'étape sur écran. On avait quand même un peu la boule au ventre. Pas question que Remco finisse par se planter quelque part et que tout soit fini. Et on préférait jouer la sécurité et que Remco ne risque pas tout pour la victoire d'étape, mais qu'il pense plutôt à la deuxième place du classement général.
Et il est là maintenant, derrière Tadej Pogacar, devant Isaac Del Toro. Si rien d'extraordinaire ne se produit à Paris, ce sera le podium du Tour de France 2026. Pogacar est souvent comparé à Eddy Merckx. On surnommait Eddy Merckx le cannibale. Mais quand je vois la stratégie, le comportement et le travail d'équipe de Tadej Pogacar sur ce tour, cela n'a vraiment rien à voir avec le cannibale. C'est impressionnant de voir comment il s'est mis au service de son ami et coéquipier Isaac Del Toro.
Oui, c'est beau de voir qu'une vraie amitié entre hommes fonctionne si bien. Isaac Del Toro est un peu considéré comme le successeur de Pogacar au sein de l'équipe UAE Emirates. Et Isaac Del Toro a déjà beaucoup fait pour Tadej Pogacar, non seulement sur ce Tour de France, mais aussi ces deux dernières années.
Et quand Tadej Pogacar rend l'appareil, on voit la classe qu'il a en tant qu'athlète, mais aussi en tant qu'homme.
Je suis entièrement d'accord. À propos d'humains, les cyclistes sont aussi des humains. Et quand on réussit quelque chose, on a bien le droit de se faire plaisir. Dis-nous, demain, il y a une course à Paris. On en parlera juste après, car il y a d'ailleurs des changements. Mais après cette course, vous organisez traditionnellement votre fête de fin de saison. Où allez-vous faire la fête cette année?
Oui, nous avons quelque chose de nouveau et pour une fois organisé par l'équipe, par nous. Nous avons loué un bel endroit en haut de Montmartre et nous avons attribué 340 places à des partenaires, mais aussi à des amis de l'équipe et les coureurs ainsi que leurs familles seront présents et le lieu de l'événement est déjà ouvert pendant la course. C'est-à-dire que nos partenaires peuvent suivre la course en direct depuis le site, là-haut à Montmartre. Après l'arrivée, les coureurs nous rejoindront et nous passerons donc l'après-midi et la soirée ensemble demain et cela se prolongera probablement jusque tard dans la nuit.
Combien de temps? Oui, justement, je voulais demander, ça dure combien de temps? Jusqu'au milieu de la nuit? 2 heures? 4 heures?
Oui, pour moi, ça ne durera certainement pas aussi longtemps.
Peut-être, c'est pour certains, mais il faut aussi penser que lundi, ce n'est pas fini. Tous les véhicules, et ça en fait beaucoup, doivent être ramenés à notre site. Et même Remco doit déjà repartir en Belgique, car il court là-bas lundi et mardi aussi.
Eh bien, voilà comment ça se passe dans le milieu du cyclisme. Je connais ça des Jeux olympiques. J'ai souvent pu le constater moi-même quand des athlètes norvégiens ou autrichiens venaient dans une maison allemande. Est-ce qu'il y a ça lors de la fête de clôture du Tour de France que quelqu'un d'une autre équipe passe nous voir ou est-ce que c'est vraiment un cercle fermé?
Oui, c'est plutôt le cercle restreint, car les moments, et je viens de le mentionner, Remco court, lundi et mardi déjà en Critérium en Belgique. Notre personnel n'est pas simplement en congé lundi. Ils doivent ramener tous les véhicules à Roebling. Nous avons samedi prochain où Remco Evenepoel court à nouveau la prochaine course du World Tour à Saint-Sébastien au Pays Basque. On ne peut pas vraiment, faire la fête maintenant car nous avons encore beaucoup trop à faire et nous ferons ça plutôt lors de la fête de fin de saison. Donc, on se réjouit d'une belle soirée, mais je crois qu'elle ne sera pas si extensive, excessive.
Exactement.
Cela deviendrait peut-être excessif si nous gagnions vraiment le Tour de France.
D'accord, très bien. Regardons dimanche, regardons la finale, la dernière, la 21e, la dernière étape. Les feux de forêt entraînent à nouveau des changements. D'après mes informations, Ralph, corrige-moi si tu en sais plus, au lieu de 132 km, il n'y en a plus que 429. La présentation des équipes aura lieu au point de départ initial à Thoiry. Ensuite, les coureurs seront transférés en bus dans la périphérie de Paris et ils ne parcourront que ces 89 km dans et autour de Paris. Le départ est à 17h50. Il y a 2 tours supplémentaires sur les Champs-Élysées. Montmartre reste au programme. Est-ce bien la situation actuelle?
Oui, c'est aussi ce que nous avons reçu récemment de la part de l'organisateur. Et oui, c'est comme ça. Il faut toujours une certaine flexibilité. Et si un petit détail change encore lors de la 21e étape, alors ça ne change plus grand-chose au niveau de l'effort ici sur le Tour de France.
Les derniers jours ont été extrêmement éprouvants de toute façon et aujourd'hui, tout le monde a encore un long transfert en voiture vers Paris. Personne ne sera à Paris avant minuit car il reste encore cela à faire. Les coureurs prennent le train pour Paris aujourd'hui. Alors, ce petit changement sur l'étape de demain ne va pas nous tuer. L'important, c'est de rouler sur les Champs-Élysées, car on attend énormément de spectateurs. Il y a aussi toutes les zones VIP de l'organisation, ainsi que notre propre espace VIP. Donc, tout est maintenu et nous pouvons très bien vivre avec ça.
D'accord. Remco et Paris avec Montmartre. Il y a eu quelque chose il y a 2 ans. Mais prend-on le risque demain? C'est la question cruciale. Vu le profil, il peut gérer de telles étapes.
Oui, bien sûr. Il est devenu champion olympique sur un circuit similaire. Ce sont évidemment de beaux souvenirs pour Remco. Il l'a d'ailleurs déjà mentionné. Mais demain aussi, notre approche sera similaire à celle d'aujourd'hui. D'abord, veillez à bien traverser l'étape. Et si une occasion se présente demain pour viser la victoire, nous le ferons assurément car Remco et son équipe sont des coureurs et les coureurs veulent toujours se battre pour gagner. Mais la priorité absolue, attention, la première priorité est de sécuriser la deuxième place au classement général et ensuite nous verrons ce qui est encore possible.
Exactement. Je lui souhaite bonne chance et j'espère que nous verrons Remco Evenepoel sur le podium à Paris demain. Pour vous, voici l'info. Vous l'avez entendu, il y aura beaucoup d'animation à Paris demain. Il se fera très tard et Ralph, nous ne voulons évidemment pas te déranger pendant la fête. C'est pourquoi nous ferons comme les années précédentes, Ralph, nous nous reparlerons seulement lundi.
Nous ferons notre rétrospective du Tour de France. Demain, mon collègue présentateur Corbinian Sauter et moi reviendrons sur le Tour de France. Nous avons imaginé 5 catégories qui, selon nous, ont un peu marqué le Tour cette année. C'est un petit épisode spécial demain et l'équipe habituelle avec Ralph Denk sera de retour lundi. Je vous dis merci pour aujourd'hui.
Bonne chance pour demain. Amusez-vous bien lors de la fête, quand tout sera, je l'espère, dans la poche. Et à lundi, cher Ralph.
Merci à toi.
Avec plaisir et salut et retour à Rosenheim.
C'était l'édition actuelle d'Inside Red Bull Bora Hansgrohe, le podcast d'OVB Online sur le Tour de France. Vous trouverez le podcast sur toutes les plateformes d'écoute habituelles et sur les sites d'OVB Media et DeepN Media. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine édition.